Radio Okapi.
Le journal Pascal Matirica.
Au sommaire de votre journal M23, c'est le nouveau courant politico-militaire néo-Nord-Kivu lors de la réunion des officiers ex-SNDP tenus dimanche à Rutshuru. Le mouvement dont les objectifs ne sont pas clairement définis est piloté en ce moment par le colonel Moukanya Sultani. Au lendemain de la publication du programme dévoilé par le nouveau gouvernement Matata Ponyo, que peut-on en attendre pour pendant cette législature? La réponse dans ce journal avec Jacques-Yves Molima. Lueur d'espoir pour les enfants atteints de cancer à Lubumbashi au Katanga avec l'inauguration hier après-midi d'une unité d'oncologie pédiatrique. Il est appuyé par le groupe franco-africain. Bonjour à tous. Des soldats déserteurs se réclamant du haut commandement militaire de l'armée nationale congolaise ANC viennent de créer un nouveau courant politico-militaire dénommé Mouvement du 23 mars M23 en sigle. C'est ce qu'indique un communiqué de presse du 6 mai et qui porte la signature du lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole de ce mouvement. Pour sa part, le courant politique CNDP dit rester attaché au processus de paix en cours en RDC. Pour d'autres détails, retrouvons tout de suite à Goma, Bernard Danyangi.
Le M23, selon ses communiqués, a été créé à l'issue d'une rencontre des officiers ex-SNDP le dimanche dernier dans le territoire de Rutshuru. La rencontre qui aurait fait l'évaluation du processus de paix négocié avec le gouvernement en 2009, lequel a abouti à l'accord politique du 23 mars, a conclu à l'échec de celui-ci, poursuit le communiqué, d'où la décision de créer ce mouvement dont les objectifs n'ont pas été clairement définis. Le communiqué précise que le mouvement est coordonné par le colonel Makenga Sultani, ex-commandant adjoint des opérations à Manileo au sud Kivu, lequel a fait défection des FARDC il n'y a pas longtemps. Réagissant à ce communiqué, les responsables politiques du CNDP soulignent qu'il restait attaché au processus de paix conclu avec le gouvernement congolais le 23 mars 2009. Dans leur communiqué rendu public ce mardi soir, le CNDP, tout en saluant la trêve décidée par le haut commandement militaire dans sa traque contre les mutins, demande au gouvernement congolais de privilégier le dialogue afin d'aider le Nord Kivu à sortir pacifiquement de cette crise. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, 4 femmes violées et une cinquantaine de chèvres emportées la nuit de lundi à ce mardi à Kimaki, localité située au nord de la ville de Goma. Selon la société civile locale, deux boutiques ont été pillées de fond en comble. Cette nouvelle est confirmée par des sources policières. D'autres sources concordantes attribuent cette opération à groupes armés très actifs en ce moment dans la région, comme en témoigne Alice Kakoulé de la radio Kanyabayonga.
La situation sécuritaire demeure très préoccupante dans le sud du territoire de l'Oberon. La nuit dernière, vers 23h locale, des hommes en armes ont opéré dans le village de Kimaka. Ce village est situé à cheval sur le territoire de l'Oberon et de Walikale, à 20 km au sud-ouest de Kanyabayonga. Selon les sources concordantes, le bilan de cette opération est de 4 femmes violées, 56 chèvres emportées et 2 boutiques complètement pillées. Elle attribue cette opération à la coalition FDLR Mai Mai. Cette coalition est devenue très active dans cette région après le départ des militaires FARDC depuis le 29 avril dernier. Après leur forfait, les assaillants ont pris la direction de Katekou dans le territoire de Walikale. J'ai au téléphone le président de la société civile du territoire de Lubero regrette l'absence des FARDC dans cette partie du territoire. Il recommande ainsi aux autorités militaires de redéployer les éléments FARDC dans leurs anciennes positions pour sécuriser la population et leurs biens. Kanyabayonga, Alice Kapoule de la radio Kanyabayonga pour Radio Okapi.
Vie politique maintenant en RDC avec le retour sur le programme du gouvernement Matata Ponyo dévoilé lundi dernier au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Souvenez-vous que c'était devant toute son équipe gouvernementale et plusieurs diplomates accrédités en RDC. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre du programme de cette législature 2012-2016? Voici la réponse proposée par Jacques-Yves Molima.
Ce programme du gouvernement commence par un diagnostic de la situation politique, économique et sociale. Il en ressort que le développement économique du pays est bloqué par plusieurs facteurs, notamment la gouvernance politique économique pas suffisamment maîtrisée et l'effritement des valeurs citoyennes. Ainsi, des objectifs précis sont poursuivis, à savoir favoriser la croissance, l'emploi et améliorer les revenus et le bien-être de la population. Et pour ce faire, quatre axes sous-tendent ce programme. Le renforcement de l'efficacité de l'État. Il s'agit entre autres d'améliorer les processus décisionnels, la réforme de la police, de l'armée et du système judiciaire. En ce qui concerne la croissance, le gouvernement attend dans les secteurs agricoles, élevage et pêche, intensifier la production agricole, vivrière, en vue de l'autosuffisance alimentaire d'ici 2015. Par ailleurs, en énergie électrique, le gouvernement attend accroître le taux de desserte en électricité de 9 à 19%. Le gouvernement s'investira dans la réhabilitation des infrastructures de base, à savoir les routes urbaines et les dessertes agricoles. Les moyens pour soutenir ce programme proviendront des ressources internes. Quant aux grands projets industriels et infrastructurels, l'option serait de recourir à des partenaires publics et privés.
Et puis, à quelques mois de la tenue du 14e sommet de la francophonie, la ville de Kinshasa s'attelle en ce moment à aménager les sites devant accueillir différentes activités liées à ce sommet. La cité de l'Union africaine, l'immeuble CCIC, le Grand Hôtel Kinshasa, ainsi que les hôtels Memling et Venus vont loger à l'occasion les invités à ces grands rendez-vous. Les activités politiques et culturelles se tiendront quant à elles au théâtre de Verdure, au stade de Martyr, au palais du peuple, à l'échangeur de Limété, mais aussi à l'université de Kinshasa. Question, ces sites sont-ils prêts à abriter les assises du sommet de la francophonie? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Kifinangoy qui a fait le tour de ces sites.
Il faut retenir avant tout que le logement des invités ne posera pas problème, affirme le commissariat général à l'organisation du 14e sommet de la francophonie. Sur les 5 sites choisis pour loger différentes personnalités, 4 sont déjà presque prêts. C'est le cas de la cité de l'Union africaine, du Grand Hôtel Kinshasa, des hôtels Venus et Memling. Seul l'hôtel du fleuve, l'ex-immeuble CCIC, est encore en chantier. Selon l'entreprise qui le modernise, les travaux pourront être finalisés dans 3 mois. Pour ce qui concerne les sites devant abriter les activités politiques et culturelles, beaucoup est encore à faire. Outre le palais du peuple qui continue à garder sa beauté et le théâtre des verdures qui vient à peine d'être réhabilité, les autres sites ne sont pas encore prêts à accueillir ces activités. C'est le cas de l'échangeur de Limété. Ici, seuls les premiers niveaux où seront exposés les arts contemporains est presque prêt. Mais les travaux sont au ralenti faute de financement. Pour les bureaux d'études et d'aménagement urbain, BAU, les travaux reprendront normalement dès l'entrée en fonction de l'actuel gouvernement. Au stade des Martyrs et à l'université de Kinshasa, aucun réaménagement n'est jusque-là encore entrepris.
Partons pour le Katanga où une lueur d'espoir se profile à l'horizon pour les enfants atteints du cancer à Lubumbashi avec l'inauguration ce mardi après-midi d'une unité d'oncologie pédiatrique aux universités, aux cliniques universitaires de cette ville. Elle a pour rôle de prendre en charge justement les enfants malades de cancer. Et pour cela, 2 salles viennent d'être aménagées au pavillon de la pédiatrie. Actuellement, 10 malades y sont pris en charge, dont 6 internés. Seulement voilà, il y a un souci à se faire. Les 2 salles manquent beaucoup de matériel pour répondre efficacement aux standards d'un centre d'oncologie. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le docteur Robert Mukamba, pédiatre oncologue et responsable de cette unité. Il reconnaît tout de même qu'avec l'appui d'un groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique basé en France, cette unité reçoit 2 fois par an des médicaments pour une chimiothérapie gratuite. Docteur Robert Mukamba au micro de Denise Mayo.
Le cancer, c'est aussi une affection à longue durée et dont la thérapeutique est très lourde. Puis ça nécessite beaucoup d'examens paracliniques, labo, imagerie, beaucoup de traitements de soutien, c'est-à-dire perfusion, traitement contre la douleur, contre le vomissement. Mais les familles n'ont pas le moyen pour supporter tout ça. Il est vrai qu'il y a la bonne volonté du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui amène les médicaments. Ce n'est pas pour tous les cancers puisqu'on n'a pas assez de moyens, c'est pour les 5 types de cancers les plus fréquents. Bon, maintenant, pour le traitement de soutien, les parents doivent payer, mais la plupart n'ont pas assez de moyens. Il y en a qui fuient parfois. Mais parmi les enfants qui sont ici, il y en a qui sont en rémission complète, mais qui sont encore sous traitement. Donc c'est pour dire, avec les peu, on essaye de faire le maximum pour aider ces enfants, mais avec beaucoup plus de soutien, on peut faire mieux.
Terminons ce journal par cette réflexion d'hier à Kinshasa sur les rôles et responsabilités des journalistes et médias congolais lors des élections organisées en RDC le 28 novembre dernier. L'atelier s'est tenu au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Des journalistes ont mis à profit l'opportunité pour évaluer leur travail réalisé avant, pendant et après les élections. Ils ont également fait des projections par rapport aux prochaines échéances électorales. Le point de cet atelier nous est fait par Trudon Mukanyamole.
Les organisateurs ont condamné le comportement des journalistes pendant la période électorale. Ils les accusent de partialité dans le traitement de l'information, une attitude qu'ils dénoncent.
Beaucoup de journalistes se sont fait partisans de certains courants politiques ou leaders politiques. Ils se sont plus plongés dans la propagande politique au lieu de se limiter à une information objective, responsable et professionnelle.
Face à ce tableau sombre, Richard Mouyège, ministre intérimaire de la communication et médias, a invité les professionnels des médias à promouvoir une presse qui favorise l'émergence d'un état des droits.
Les médias libres favorisent la participation au débat démocratique dans la gestion de la Respublica et procèdent ipso facto à la transformation des sociétés.
Afin de livrer une information saine à leur public quant à l'avenir, les professionnels des médias se sont engagés à ce qui suit.
Fournir des renseignements concernant la procédure d'inscription au bureau des votes, la durée de la campagne électorale, l'opération du dépouillement des votes, assurer l'éducation civique de la population.
Outre ces engagements, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des professionnels des médias à l'issue de cet atelier, notamment la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information. Le journaliste est aussi appelé à prendre des distances vis-à-vis de la politique active pendant l'exercice de son métier.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté.
Okapi. 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 Okapi.